saluto al Duce!
L'onore! Voi avete l'onore e il privilegio di ospitare nel vostro mare le forze navali dell'Italia fascista.
Maria Montessori, l'insubordonnée de l'éducation. Une grande traversée de Johanna Bedeau et Marie-Laure Ciboulet.
La coïncidence romanesque, c'est qu'elle revient en Italie quelques mois avant l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Ça, c'est une coïncidence incroyable. Elle est appelée par le ministre de l'Instruction, qui est un ami à elle par ses connaissances de Rome, et qui lui dit, c'est absurde, vous allez aux États-Unis, vous allez en Espagne et personne ne s'occupe de votre école ici. Pourquoi on ne peut pas s'occuper de la méthode ? Et juste après ça, elle revient, elle accepte de faire des voyages parce qu'elle vit à Barcelone pour étudier un peu l'école italienne. Mussolini, qui, il ne faut pas oublier, c'était un ancien prof maître d'école, ancien socialiste, ça veut dire qu'ils avaient quand même des éléments en commun. Arrive au pouvoir et il ne faut pas oublier ça. Hein. Dans les années 20, le fascisme est à la mode, dans le sens que Mussolini est considéré l'homme nouveau. Chamberlain le reçoit à Londres, ça veut dire qu'il est considéré, c'est pas encore la guerre, non, c'est pas encore le nazisme, est considéré une force politique nouvelle. Et lui, son truc, c'est l'Italie d'abord. Et évidemment, c'est un nationaliste. Et il se rend tout de suite compte que Maria Montessori est un nom italien très grand dans le monde. Et il lui fait vraiment la cour en disant venez. Il parle beaucoup avec le Mario, qui est très sensible à cet appel. Et ils acceptent de revenir vivre en Italie.
Quatrième épisode, le temps de l'exil. Médecin et pédagogue italienne, Maria Montessori est devenue célèbre pour avoir inventé des méthodes d'éducation novatrices au début du XXe siècle. Experte en psychiatrie, en psychologie, en neurologie et en anthropologie, Maria Montessori s'est rendue compte à travers ses recherches que les enfants présentant des déficiences intellectuelles ont avant tout besoin d'un accompagnement éducatif et non uniquement médical. Après l'ouverture d'une première école à Rome en 1907 pour les enfants des rues, la psychiatre parcourt le monde entier avec son fils Mario, retrouvé à l'âge de 15 ans, pour diffuser sa méthode. Des bas-fonds de Rome au cercle du pouvoir américain, son ascension raconte les interrogations d'une époque percutée par la réalité des deux guerres mondiales. Alors que Montessori s'apprête à donner un cours à Londres, destiné aux futurs enseignants, elle adresse une lettre à Mussolini pour solliciter son soutien. Elle souhaite enfin créer une formation en Italie pour les futurs maîtres et transmettre sa méthode dans son propre pays. Une visionnaire dont l'utopie éducative cache aussi des zones d'ombre. Elle écrira « Je suis certaine que les étudiants auraient été satisfaits de venir à Rome, le centre où convergent toutes les aspirations du monde entier, particulièrement en ce moment de renaissance et de grandes espérances. Je suis donc doublement triste de devoir me rendre là-bas en Angleterre, de devoir m'éloigner de ma patrie pour enseigner cette méthode. Je veux exprimer mon espoir que Rome soit bientôt le centre de ses études. Je suis certaine d'interpréter le souhait et les aspirations de tous ceux qui partagent avec moi la foi en la personne du Duce d'Italie. Et elle signera, avec toute ma dévotion fasciste, Maria Montessori. »
En 1923, Mussolini est encore désireux d'avoir une image de respectabilité.
Marianne Matta Bonucci, historienne.
Maria Montessori est connue à l'étranger, donc la recevoir, comme il reçoit d'ailleurs énormément de visiteurs de toutes les parties du monde. Hein. Il y a un grand intérêt pour le régime fasciste à ce moment-là. Beaucoup d'intellectuels, qui ne sont pas forcément des gens situés à l'extrême droite, donc vont avec intérêt, dans les années 20 et jusque dans les années 30, voir ce qui se passe en Italie, et Mussolini les reçoit avec de grands numéros de séduction. talent, hein. Il a un réel charisme, il a une vraie culture, il sait parler l'allemand, le français. Donc, il parvient à tromper son monde d'une certaine façon et à rassurer donc une certaine intelligentsia et des élites politiques qui se rendent en Italie. Ensuite, il y a aussi dans la doctrine fasciste l'accent qui est mis sur le corporatisme, qui est également un élément d'intérêt pour toute une partie donc d'élites politiques qui sont à la recherche d'une troisième voie. Ce discours de la troisième voie entre justement capitalisme et socialisme fascine effectivement une certaine frange donc politique. Donc il la reçoit comme il reçoit beaucoup d'intellectuels et c'est une façon encore une fois de montrer que il y a une ouverture d'esprit en Italie. En plus, le fait que ce soit une femme doit également jouer en faveur précisément de Montessori. C'est aussi un signe d'une forme de libéralisme pour l'époque. Quand bien même Mussolini, par ailleurs, est extrêmement macho et la politique qui est mise en place par le régime est une politique parfaitement viriliste, on dirait aujourd'hui.
La diffusion des écoles Montessori en Italie était beaucoup plus faible que ce qui était le cas en Espagne, en Hollande, en Allemagne même, ou en Angleterre.
Martine Gilsoul, chercheuse.
Et donc, pour Maria Montessori, ça a été toujours un désir de voir dans son pays, là où tout était né, que aussi les petits-enfants italiens puissent bénéficier de cette méthode, comme on l'appelait. Elle avait quitté donc l'Italie en 1915, elle avait choisi Barcelone comme domicile principal. Elle passe en Italie de temps en temps pour la collaboration avec la société humanitaire, quand on a besoin d'elle. Mais l'Italie n'est jamais la priorité parce qu'elle voit que les conditions ne sont pas réunies. Il faut aussi peut-être souligner qu'à l'époque, l'Italie était en crise profonde. Que les ministres, par exemple, les ministres de l'éducation étaient remplacés très rapidement. En 1922, un ministre, Antonio Anile, le ministre de l'Éducation, est un ami de Maria Montessori. Il connaît bien sa pensée et donc il lui propose d'organiser un cours à Naples pour former les enseignantes. Pour elle, c'est déjà un signal d'ouverture. Mussolini, dans sa jeunesse, avait été instituteur. Dans sa période socialiste, parce que Mussolini a une vie assez différentes selon les périodes. Dans sa période socialiste, quand il était journaliste, il avait observé le travail des enfants dans les écoles Montessori de la société humanitaire. Et donc on peut imaginer qu'il avait apprécié cette dimension de discipline et d'ordre qui régnait. Bien entendu, il ne comprenait pas que l'ordre qui règne, la discipline, c'est une discipline intérieure des enfants. Ce n'est pas une discipline qui est imposé de l'extérieur. Mais ça l'intéressait parce que à l'époque, la situation de l'école italienne était désastreuse. Il y avait encore un taux très élevé d'analphabètes. Et donc, il fallait absolument que Mussolini puisse donner du lustre à son régime, parce que ce sera un régime. En 1922, ce n'était pas encore le cas, mais ça se transforme très rapidement en régime. Et donc Mussolini, qui était quand même un fin stratège, se rend compte qu'il peut ressortir grandi du soutien à Maria Montessori. Donc il fait mener une enquête à travers les consulats italiens dans le monde entier et il se rend compte que les deux Italiens les plus célèbres dans le monde, c'est Marconi, pour l'invention du télégraphe et du téléphone, et Maria Montessori. Et donc là, il propose son aide à Maria Montessori. Maria Montessori donc le rencontre avec Mario. Elle se plaint du fait qu'elle n'a jamais été soutenue par les institutions italiennes et Mussolini, en gentleman, lui dit « je vais vous aider ».
L'idéologie de Mussolini, on peut la rassembler sous l'étiquette du fascisme puisque c'est vraiment lui et son mouvement qui inventent cette nouvelle doctrine qui se forme progressivement, c'est important de le rappeler, le fascisme des origines, c'est-à-dire tel qu'il apparaît en 1919 avec la fondation du mouvement des faisceaux à Milan et le fascisme des années 30, n'est plus tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, pendant des années, alors que les nazis en Allemagne se réfèrent à un texte qui est Mein Kampf, les Italiens n'ont pas vraiment de texte où la doctrine est mise au point, clairement définie. Il faudra attendre le début des années 30 avec le projet de grande encyclopédie italienne pour qu'un article doctrine du fascisme donc soit publié, article qui sera rédigé d'une part par Mussolini et d'autre part par Giovanni Gentile qui est le grand intellectuel du régime et qui va être le premier ministre de l'éducation nationale qui va faire une réforme de l'enseignement extrêmement conservatrice donc qui va au cours des années 20 et jusqu'au début des années 30 transformer le système éducatif fasciste en un système de reproduction des élites traditionnelles, ce qui peut sembler un peu contradictoire avec un régime qui voulait justement se présenter comme un régime au service des masses et des classes moyennes. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que mars 1919, c'est un mouvement qui est créé et non pas un parti, parce qu'il y a l'idée qu'il faut refonder la politique et que les partis ne sont plus la forme appropriée pour cette refondation. Ils sont extrêmement critiques à l'égard de la forme parti, alors que, et vous voyez une première métamorphose et pirouette du fascisme, en novembre 1921, le mouvement des faisceaux est transformé en parti national fasciste. Donc Mussolini opte pour la forme parti, pour une participation aux élections également, et donc se dit qu'il faut utiliser le cadre démocratique pour conquérir le pouvoir. Donc.
La première chose que fait Mussolini, c'est de transformer la société des amis de la méthode Montessori qui avait été créé par des amis, des soutiens de Maria Montessori de manière un peu informelle à Naples en 1919, il lui donne une existence juridique. Donc c'est l'Opéra Nazionale Montessori qui est donc érigé en 1924 et dont il est président d'honneur. Et donc on retrouve là aussi la marquise Maraini, donc toutes des personnes qui connaissent profondément la pensée de Maria Montessori. À la même époque, il y a la réforme Gentile qui propose de réformer l'éducation maternelle en Italie. Avant cette date, on ne parlait pas de l'éducation des enfants de 3 à 6 ans dans les programmes. Et donc, il y a là différents éléments qui peuvent faire croire à Maria Montessori que le temps est mûr pour que sa méthode puisse enfin prendre de l'ampleur en Italie. Et donc, on peut être presque sûr, en connaissant Mussolini, en connaissant sa mentalité, que lui, il n'était pas tellement intéressé par le fait de permettre aux petits Italiens de grandir, de pouvoir exprimer leur libre choix au sein des activités pensées pour eux dans un bel environnement, comme le préconise la méthode Montessori. Lui, c'était avant tout un choix stratégique pour asseoir son régime qui, en 1924, on a l'assassinat de Matteotti, et donc il montre quelles sont ses intentions. Et donc on commence à parler vraiment d'une dictature.
Il y a des élections qui sont organisées au printemps 1924, qui se déroulent dans un climat de violence extrême, que dénonce le député socialiste Matteotti à la Chambre des députés. Et cette dénonciation du régime...
Qui est un député socialiste.
Qui est un député socialiste, tout à fait, Giacomo Matteotti, extrêmement courageux. À la suite de cette dénonciation du climat dans lequel se sont déroulées les élections, et aussi... Il y avait chez Matteotti l'intention de dénoncer certaines malversations dont il avait eu connaissance au sommet donc de l'État. À la suite de cela, il va être enlevé, donc avec la complicité de l'entourage de Mussolini et très probablement sur ordre de Mussolini. Et il disparaît, son corps sera retrouvé en août 1924, dans un contexte de crise. Cette disparition de Matteotti a provoqué un réveil des oppositions antifascistes qui malheureusement ne parviennent pas véritablement à s'unir sur un plan stratégique. Et donc, à l'issue de l'affaire et de la crise Matteotti, eh bien Mussolini reprend la main et prononce le 3 janvier 1925 un discours à la Chambre des députés qui annonce véritablement ce qu'on appelle le tournant fascistissime du régime, c'est-à-dire un vrai tournant totalitaire. Cette fois, dans ce discours, Mussolini assume la violence, a quelques formules qui claquent en disant si le fascisme n'a été que le fait d'une bande de malfaiteurs, eh bien je suis à la tête de cette bande de malfaiteurs, j'assume tout ce qui s'est passé dans l'affaire Matteotti. Et à la suite de ça, eh bien donc des décrets-lois sont adoptés qui mettent fin donc peu à peu à la démocratie libérale. Suppression de la liberté de la presse, pouvoirs de légiférer qui sont donnés au chef du gouvernement, transformation du cadre juridique, mise en place d'un tribunal spécial pour la défense de l'État qui va juger les antifascistes et les envoyer en prison ou ce qu'on appelle le confino, c'est-à-dire en relégation dans des îles ou dans des régions du sud de l'Italie. Donc on est vraiment cette fois dans le cadre d'une dictature donc qui a supprimé toutes les libertés.
En 1926, on a le premier cours de formation Montessori, reconnu par le gouvernement italien, organisé au sein de la Société humanitaire. La Société humanitaire, entre-temps, avait été bien retransformée par les fascistes, donc ce n'était plus les idéaux socialistes du début qui étaient en vigueur. Et donc Maria Montessori, bien entendu, est là à l'inauguration du cours. Il y a énormément d'étudiants qui ont été envoyés des campagnes romaines, donc il y a vraiment, on peut croire que c'est bien parti. Et en même temps, pour Maria Montessori, il y a comme un petit signal d'alarme parce qu'elle est en train de se rendre compte qu'il y a un risque de manipulation de sa pensée et de ses écoles.
L'éducation est quelque chose d'absolument central dans les régimes fascistes en général et l'Italie en particulier, parce que il y a cette idée que la jeunesse, c'est l'avenir, c'est ce qui doit porter la révolution fasciste, l'idée fasciste, et qu'il n'y aura pas de pérennité du fascisme si on ne réussit pas à fasciser donc les nouvelles générations.
Ma méthode prépare des caractères forts, des esprits équilibrés, des intelligences éveillées. Elle donne confiance en soi, elle cultive le feu de l'enthousiasme, elle vivifie de manière surprenante l'amour du travail, la passion pour la connaissance. Elle offre l'impressionnant spectacle d'une discipline parfaite. Grâce à elle, l'étude devient une jouissance. L'intelligence peut travailler longuement sans se fatiguer. Un peuple préparé de la sorte rendra sa patrie supérieure et dominante. Pour toutes ces raisons, de nombreuses nations ont adopté ma méthode, qui se diffuse sans cesse davantage. Ma méthode est donc digne de collaborer avec le fascisme. Elle permet de rassembler de grandes énergies spirituelles. C'est une véritable hygiène psychique qui, appliquée à notre race, peut valoriser sa force magnifique. Et j'en suis certaine, dépassait alors celle des autres races.
Le fascisme est un régime totalitaire qui veut non seulement changer la société, mais changer l'homme, l'individu, dans ce qu'il a de plus intime, dans son caractère, dans ses comportements. Alors évidemment, à partir d'un certain nombre de valeurs, qui sont les valeurs que le fascisme défend, donc cet homme nouveau, d'abord c'est un homme, hein, la femme n'a qu'un rôle tout à fait secondaire dans cette société fasciste, qui est un rôle de reproductrice essentiellement. Et donc un homme avec les valeurs qui sont associées à la virilité à l'époque, donc il doit être un guerrier, il doit être un travailleur, il doit respecter la discipline, la hiérarchie, il doit essentiellement servir le régime, servir une idéologie qui est donc l'idéologie fasciste.
On parle de quelle période quand on parle de l'homme nouveau ?
C'est à partir du milieu des années 20 que cette idée, c'est-à-dire après le tournant fascistissime, quand on est vraiment dans un régime dictatorial, que Mussolini commence à être donc à vouloir s'inscrire dans la durée, hein, assurer la survie de son régime. Et donc, pour lui, la durée, eh bien, c'est justement de nouveaux comportements qui seront transmis par l'éducation ensuite aux enfants. Et ce qui est très important pour Mussolini, c'est la jeunesse, bien évidemment, puisque il voit dans chez les enfants, les adolescents, ceux qui seront ensuite l'expression de cette nouvelle humanité, hein, qu'il s'agit donc de créer.
Est-ce qu'elle était naïve ? Mais je ne crois pas, parce qu'elle était quand même assez intelligente. Est-ce que ça a été une recherche de compromis, mais c'est elle qui a perdu ? Voilà, les hypothèses sont... Voilà, c'est pas facile. Elle a fermé les yeux, c'est clair. Elle n'a pas voulu voir certaines choses, comme d'ailleurs l'ont fait de nombreux intellectuels italiens, pour pouvoir continuer à vivre.
Sa collaboration était, une fois encore, opportuniste.
Cristina De Stefano, écrivaine.
Elle aurait collaboré avec le diable pour créer une école Montessori en Italie, parce que c'était son pays, elle aimait son pays, elle avait quand même des racines. Et alors, bon, elle a accepté ça, mais dire que Maria Montessori était fasciste est une absurde historique. Maria Montessori, évidemment, ne prend pas de position parce qu'elle est dans le discours de « ok, je dois profiter de cette situation ». Elle ne parle jamais de politique, disons qu'elle essaye de rester très loin de tout ça, mais elle était en Italie en ce moment-là.
È molto facile giudicare e considerare con il senno di poi.
Lorenzo Cantator, professeur d'histoire sociale de l'éducation.
Dobbiamo sempre pensare.
Il est très facile de juger avec du recul. Mais il faut toujours garder en tête que c'était une femme. C'est la première chose qu'on doit rappeler. C'était un avantage, une longueur d'avance, mais aussi une difficulté dans ce monde-là. Que pouvait-elle faire contre le fascisme ? Beaucoup d'intellectuels, à commencer par Giuseppe Ungaretti, pour citer le nom d'un grand poète, ont demandé le soutien du fascisme et du Duce en personne. Ils ont demandé des introductions pour leurs livres parce que c'était d'une part une forme de cécité, d'autre part c'était aussi une nécessité vitale pour pouvoir continuer à travailler et continuer à défendre des idées de l'intérieur, tout en ne partageant pas les méthodes du régime.
Pur non condividendo i metodi naturalmente del regime, non posso pensare che li condividesse e che non li conoscesse.
Je ne peux pas croire qu'elle les partageait ou qu'elle les ignorait. Ce sont des façons différentes de concevoir la rencontre entre la vie culturelle, la vie morale et la vie politique. Pour certains, il faut faire de grands compromis. Pour d'autres, les compromis sont moins importants. Cela ne doit pas nous faire redimensionner leurs valeurs et leur portée historique. On doit regarder au-delà.
Certaines de ses collaboratrices, pour l'excuser, disent que Maria Montessori était au-delà de la politique. Mais en même temps, nous savons que chaque geste est politique.
Pour moi, il y a toujours la liberté. Je fais comme je veux. Je ne veux pas être présentée comme une furieuse antifasciste. La politique ne m'intéresse pas.
Voilà, c'est clair que c'est une tache d'ombre dans la vie de Maria Montessori. C'est clair qu'on aurait préféré qu'elle ne descende pas à ses compromis, qu'elle n'écrive pas ses lettres à Mussolini. Mais, voilà.
Il n'y a pas de visée transformatrice au sens politique du terme, dans le sens où, contrairement au Freinet, qui par exemple était pétri de communisme, il y avait, par exemple, ou de socialisme, il y avait un projet politique précis auquel ils aspiraient, et leur pédagogie était au service aussi de ce projet de société.
Bérangère Colli, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation.
Et ce qu'on reproche à Maria Montessori notamment, c'est de ne pas avoir ça. C'est-à-dire de ne pas avoir de projet de société pour les adultes, et donc finalement sa pensée de l'éducation ne soit pas au service d'un projet politique, même si, bien sûr, ce que je dis là, des spécialistes de Freinet diraient « oui, mais attention, c'est plus compliqué que ça ». Certes, mais ce que je veux dire par là, c'est que chez les Freinet, c'est quand même très clair. Chez De Croly, c'est clair aussi. Chez Montessori, il n'y a pas ça. Il y a une absence de projet politique explicite. Donc face à ça, on a deux options possibles. On a l'option de dire « on ne dit rien » parce qu'en fait, c'est un projet conservateur qui est implicite et il n'y a pas de projet de transformation de la société, voire même c'est un projet réac. Vous voyez, on peut aussi se dire ça, mais il n'y a pas d'élément qui dit ça, c'est plus le fait de le taire, surtout de le fait de le taire à un moment donné, par exemple dans l'entre-deux-guerres, où c'est la montée des périls, et où il n'y a pas d'autre choix d'une certaine manière que de prendre un camp ou un autre. Et le fait de ne pas prendre de camp, d'une certaine manière, c'est un peu prendre un camp quand même. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, en fait, c'est celle que dit Maria Montessori elle-même. Elle dit que la question politique n'est pas la question qui l'intéresse, qu'elle a une position sociale. Elle parle à un moment dans les années 30, en 1937, elle propose de créer le Parti Social de l'Enfant, un Parti Social de l'Enfant qui transcenderait tous les partis et qui serait pas de la politique au sens politicienne du terme, mais qui serait une manière de tous travailler, quels que soient nos bords politiques, à la place donnée à l'enfant et à la transformation de la place de l'enfant dans la société. Alors, ça, on peut se dire que, en fait, c'est politique. Mais dans son discours, c'est jamais considéré comme politique dans le sens où c'est pas un projet de société. Il n'y a pas de position sur l'économie, il n'y a pas de position sur le type d'institution qu'il faut, etc. Mais je pense qu'une des manières de le comprendre, c'est que elle dit clairement que l'adulte n'est pas l'enfant et que la société des enfants n'est pas la société des adultes. Et là, on revient sur des considérations un peu éculées peut-être, qui diraient qu'il y a des lois d'une certaine manière chez l'enfant, par exemple. Et donc, elle dit que l'enfant ne fonctionne pas de la même manière que l'adulte. Et donc, réfléchir à la manière dont les enfants feraient société à partir d'un modèle d'adulte, ça serait se tromper, puisque les enfants ne sont pas les adultes. Donc, le modèle de société des adultes n'est pas le modèle de société des enfants. Alors, comment on passe du modèle des enfants au modèle des adultes? Ça, elle ne le dit pas.
Et l'Italie, comment considère-t-elle le travail de la doctoressa Montessori? En réalité, jusqu'à présent, elle n'y a rencontré que des incompréhensions et des obstacles. Je reste en attente de la décision de son Excellence qui nous dira si nous devons, ou non, poursuivre en Italie notre travail en faveur de l'enfance et de la patrie. Mario Montessori.
L'inauguration du cours en 1926 à la Société humanitaire, ça déclenche en Maria Montessori une prise de conscience que, en fait, les belles promesses de Mussolini risquent de ne pas se concrétiser et qu'en fait, on profite d'elles. Il retourne avec toute la famille de Mario, il retourne à Barcelone, tant est que la plus jeune fille de Mario naîtra à Barcelone en 1929. Ils ne viennent en Italie que quand il y a des cours, quand elle a besoin d'être en Italie. Et ce sera aussi une des raisons pour lesquelles le régime va la critiquer, parce qu'en théorie, elle était directrice de l'école royale de méthode Montessori, mais dans les faits, vu qu'elle voyageait beaucoup, elle avait nommé Giuliana Sorge comme directrice. Donc on va lui reprocher de prendre un salaire, mais de ne pas faire le travail. Donc Maria Montessori, à ce moment-là, prend vraiment ses distances. Elle fait le moins possible, parce qu'il faut penser aussi qu'il y avait toutes ses collaboratrices qui travaillaient ici, les enseignants. Donc je pense qu'elle a aussi choisi d'être très prudente pour préserver peut-être le travail d'autres personnes. Parce qu'elle, elle avait la possibilité de partir. Non, elle avait une maison à Barcelone qui l'attendait, elle pouvait y aller quand elle voulait. Mais tous les Italiens, toutes les enseignantes italiennes n'avaient pas cette possibilité. Et donc les Montessori donc, vivent de nouveau à Barcelone. Et quand ils sont à Barcelone, l'association des familles anarchistes leur propose de collaborer. Ils acceptent. Maria Montessori fait aussi des conférences à la radio en Espagne. Et à ce moment-là, ils étaient déjà suivis par les espions de l'OVRA, donc la police secrète de Mussolini, qui dit, voilà, nous avons la preuve que ce sont des antifascistes. Et on peut voir que là, Maria Montessori, elle va un peu où on l'appelle, non ? Enfin, elle a essayé ici, en Italie. Et puis, elle travaille sans problème avec les enfants des familles anarchistes. Et donc, ils sont suivis dans leur moindre mouvement. On sait qu'en 1936, quand elle va à Bruxelles pour une conférence sur la paix, elle est suivie. Mais il y a un autre événement, c'est en 1932, Maria Montessori prononce sa première conférence publique sur la paix. Donc nous sommes à Genève, la Société des Nations organise un congrès, et Maria Montessori va prononcer une très belle conférence sur la paix. Donc il y a un public international, il y a bien entendu un espion.
Aujourd'hui, en cette période particulière de l'histoire, l'éducation prend une importance considérable. Nous insistons de plus en plus sur son utilité pratique, que nous pouvons résumer en une phrase. L'éducation est la meilleure arme pour la paix.
Extrait de conférence prononcée au 6e Congrès international Montessori à Copenhague en 1937.
Et infatti, à partir de 1932-1933,
Erika Moretti, professeur agrégé.
Que Maria Montessori comincia.
C'est à partir de 1932-1933 que Maria Montessori entame un cycle très long de conférences dans lesquelles elle essaiera de mettre en relation son travail sur le pacifisme avec son travail d'éducatrice et pédagogue. La célèbre collection d'essais que nous connaissons désormais sous le titre de L'éducation et la paix, titre de la version française, naît en effet d'un recueil des discours que Montessori tient tout au long des années 1930.
Cette série de conférences l'amène à intégrer d'une certaine manière ses réflexions sur le pacifisme à celles sur l'éducation. Pour Montessori, l'éducation n'est qu'un instrument. Mais l'objectif principal n'est pas celui d'éduquer. La pédagogie est secondaire par rapport à la paix mondiale. Montessori dira que l'éducation est la meilleure arme pour la paix.
Et bien entendu, c'est pour beaucoup de fascistes qui déjà ne supportaient plus Maria Montessori, c'est la goutte qui fait un peu déborder le vase. Et donc là, je pense que Maria Montessori, elle a compris qu'elle n'avait plus rien à perdre. Mais, de fait, elle fait encore partie de l'Opéra Nationale Montessori. Donc en 1933, elle va envoyer sa démission parce que on peut vraiment dire que le régime ne se cache plus,
Monsieur le Président de
l'œuvre, pour faire à sa guise.
J'ai pris connaissance de la lettre que vous avez adressée à Son Excellence Chiavellini pour informer le chef du gouvernement. Elle contient des insinuations et des affirmations erronées contre moi qui rendent incompatible mon adhésion à des actions clairement dommageables à l'œuvre Montessori ainsi qu'à moi-même à titre personnel.
Et donc il y a vraiment une utilisation du nom Montessori de la part du régime fasciste. Et Maria Montessori, quand elle écrit à une de ses amies, elle écrit « Oui, ils veulent le Montessori, donc la méthode Montessori, mais sans les Montessori. » Et donc elle donne sa démission.
Par cette lettre, je déclare donc me retirer de l'association Montessori que vous dirigez.
Et le jour suivant, c'est Mario, son fils, qui donne sa démission de l'Opéra Nationale Montessori.
« Je désire ne plus faire partie d'une association qui, par son action négative, et par le momentum rempli de fausses affirmations envoyées à Son Excellence Mussolini, est arrivé à calomnier la personne qui lui a donné la vie, le nom et la célébrité. »
Moi, c'est à partir de ce moment-là que je parle de l'exil.
« Je vous prie de retirer mon nom de la liste des personnes qui figurent dans le comité de l'œuvre Montessori. » Mario Montessori.
Parce que là, c'est clair que Maria Montessori, elle n'est vraiment plus la bienvenue en Italie. Elle est suivie par la police politique. Il faut qu'elle soit prudente. Elle revient quand même en 1934 parce qu'il y a un congrès Montessori, ici dans la bibliothèque Borromini de la Chiesa Nuova. Piaget, et là Piaget prononce une conférence. Et Maria Montessori, durant sa conférence, est interrompue par des groupes de jeunes fascistes qui viennent Et là aussi, on a le compte-rendu des espions qui sont présents, qui font toute la liste des personnes avec qui Maria Montessori parle, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Et en même temps, on voit que Maria Montessori sait qu'elle doit être attentive. Et donc, en public, ou même quand elle parle, enfin, elle va être très prudente. Avec, bien entendu, les régimes qui arrivent au pouvoir en Europe. Donc en Allemagne, on brûle ses livres, mais aussi une de ses photos. Et en Italie, on ferme ses écoles.
Quand en Espagne, la guerre civile éclate, les Montessori, Maria, Mario et les enfants doivent fuir à nouveau leur pays d'accueil. Et c'est Ada Pearson qui propose de les accueillir chez elle, en Hollande, dans sa famille.
Quand la guerre civile éclate, ils sont des réfugiés, Maria et Mario, parce qu'ils ont quitté l'Italie par opposition au fascisme. Ils doivent quitter l'Espagne pour cause de guerre civile. Ils atterrissent grâce aux Montessoriennes anglaises à Londres, mais ils ne peuvent pas rester là-bas. Et c'est Ada Pearson qui dit, venez en Hollande, j'ai une maison de famille, elle venait d'une famille très riche, de banquiers, vous pouvez rester avec moi. Elle n'est pas encore la femme de Mario à l'époque. Elle s'occupe très bien des enfants de Mario qui sont petits. Et en fait, Maria et Mario partent en Inde pour une période de formation qui va devenir très longue parce qu'ils sont bloqués par la guerre. Et c'est Ada qui s'occupe des petits de Mario, qui ne sont pas du tout ses enfants à elle.
Je pense que l'Inde a joué un rôle essentiel dans la vie de Maria Montessori, mais aussi dans le développement de sa pensée. Parce qu'en fait, l'Inde s'est intéressée tout de suite à la méthode Montessori. Si on sait que déjà en 1913, au premier cours international à Rome, il y a un Indien qui travaille pour le ministère d'un État indien qui est envoyé pour suivre le cours Montessori. Et il y aura toujours à chaque cours international des Indiens qui participent. Et donc on trouve déjà de nombreuses écoles Montessori bien avant son voyage en Inde. Et donc le désir, on va dire, d'inviter Maria Montessori était réel de la part de la société théosophique, mais ce n'est que en 1938-39 qu'il va se concrétiser, quand le président de la société théosophique, qui était George Arundel, avec sa femme Rukmini Devi, se retrouve en Hollande et ils apprennent que Maria Montessori, à ce moment-là, est en Hollande. Et donc tout simplement, ils vont la trouver chez elle, sans prendre de rendez-vous, ils essayent. Et en fait, le contact passe très bien. Et donc, on parle sérieusement de la possibilité de faire un voyage en Inde pour organiser un cours Montessori. Mais Maria Montessori donne tout de suite ses conditions, on va dire. Elle dit, OK, je suis partante pour venir donner un cours en Inde, mais je veux que vous me donniez du temps pour observer les enfants indiens.
Maria Montessori, si dice, fosse membro della società teosofica a partire dal
Il paraît che Maria Montessori était membre de la société théosophique à partir de 1899. Alcuna traccia della sua Mais à ce jour, personne n'a réussi a retrouver aucune trace de son affiliation à cette organisation. Montessori était toutefois sûrement très intéressée par cette religion pratique. Et elle connaissait beaucoup de théosophes avec lesquels elle avait collaboré au cours de sa vie. On pense en effet que les premières écoles Montessori ouvertes en France avaient été fondées par deux éducatrices qui appartenaient à la société théosophique, Madame Pujol et Madame Whittington.
Montessori era profondamente attratta dal fatto che i membri più importanti della società
À mon avis, Montessori était profondément attiré par le fait que les membres les plus importants de la société théosophique étaient des femmes. Dans tous les cas, si Montessori fait partie de la société théosophique à partir de 1899, cela correspond en réalité au moment où elle appartenait aussi au mouvement féministe italien. Dans ces années, en effet, Montessori se battait pour l'émancipation des femmes. Il semble donc naturel de penser qu'elle ait pu être attirée par un mouvement dont les membres les plus importants étaient justement des femmes.
Alors Maria Montessori part avec son fils Mario en Inde en octobre 1939. C'est un voyage qui aurait dû durer 6 mois et qui en fait va durer jusqu'en 1946. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Maria Montessori a 69 ans. Ce n'est pas la première fois qu'elle va prendre l'avion. Elle avait pris l'avion en 1929 pour se rendre au Danemark. Donc c'est un long voyage. Donc ils vont partir de Amsterdam à Naples en train. Et ils vont se faire accompagner d'une Italienne et d'un Hollandais parce que ils avaient peur des réactions du régime fasciste quand ils allaient entrer en Italie. Ils avaient peur de ne pas pouvoir quitter l'Italie. Mais donc tout se passe bien. C'est un long voyage en avion parce qu'il va y avoir plusieurs escales. Ils vont passer par Athènes, Alexandrie, en Irak, ils vont faire escale à Bassora, puis en Iran, à Karachi et finalement Hyderabad. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment un événement national qui rassemble les Indiens au-delà des castes et au-delà des différences entre les religions, entre les conflits aussi entre les religions, comme on sait que ça peut être le cas en Inde. Tant et si bien que de Hyderabad à Madras, c'est Tata, le grand industriel indien, qui va piloter l'avion de Maria Montessori. Quand elle arrive à Madras, qui est Chennai aujourd'hui, elle dit « J'ai reçu l'accueil d'une reine ». Et sur le trajet de l'aéroport au siège de la Société théosophique qui se trouve à Adyar, qui est juste à côté de Madras, elle dit qu'il y avait 600 enfants avec leurs enseignants sur le bord de la route pour l'accueillir. Donc je pense qu'elle est vraiment touchée de l'accueil qu'on lui fait. Et ça lui fait aussi tout de suite oublier un peu les fatigues du voyage, la chaleur, la différence de langue, et puis aussi les conditions de vie qui n'étaient pas si confortables, qui n'étaient pas autant confortables que ce à quoi elle était habituée en Europe.
C'est en Inde, je pense, que Montessori a eu pour la première fois la possibilité de travailler sur sa méthode éducative et de laisser de côté la mise en œuvre de sa méthodologie, la création de nouvelles écoles ou la création de nouvelles organisations capables d'en augmenter la diffusion. Une fois en Inde, Montessori se concentre sur la formation du personnel enseignant et continue à étudier. C'est-à-dire qu'elle reprend l'idée d'une éducation cosmique qui avait été élaborée à partir du début des années 1930 et elle continue à l'étudier et à la mettre en application. Elle poursuit sa propre expérimentation éducative avec son fils Mario dans la ville de Chennai, dans le temple Madras, puis dans la ville vallonnée de Kodaikanal. Donc selon moi, ces années sont des années de grandes réflexions, de grandes réélaborations qui la conduiront à la rédaction définitive de l'idée d'éducation cosmique et donc du lien profond de l'enfant avec son environnement. Et ça la conduira également à l'élaboration d'un programme didactique pour les années d'école élémentaire visant à faire comprendre à l'enfant quelle est sa propre place à l'intérieur du cosmos et de l'univers, et les liens profonds non seulement entre les différents êtres humains, mais aussi entre les êtres humains et la nature.
Nous sommes dans le siège de la Société théosophique, qui est un très grand domaine. Maria Montessori et son fils sont accueillis dans le Hall Cot, un bâtiment qui s'appelle Hall Cot, qui a une architecture de style colonial. Mais vu que les étudiants sont beaucoup plus nombreux que ce qui était prévu, en fait, ils ont construit des espèces de paillotes en feuilles de bananier, donc une grande paillote où se déroulent les cours, et donc on voit que les étudiants sont assis par terre, et puis des plus petites paillotes où les étudiants sont logés. Donc là, on est au bord de la mer, et Maria Montessori dit que quand elle est prise d'angoisse, voilà, ça la détend beaucoup de regarder simplement la mer en compagnie des étudiants ou des nombreux enfants, parce qu'il y a aussi beaucoup de familles qui vivent dans le complexe de la société théosophique. Et en fait, ces enfants, des années après, ils disent que même si nous n'avions aucune langue pour communiquer, nous nous comprenions. Et Mario va ici jouer un très grand rôle, parce que Maria Montessori, elle souffre aussi de la chaleur. Donc elle dispense la formation théorique. C'est quand même aussi des conditions, donc elle dit à cause de la guerre, enfin on est loin, donc il n'y a que 3 sets de matériel pour les manipulations, pour les étudiants, donc ce n'est quand même pas des conditions idéales. Et malgré tout ça, on voit que sa pensée est vraiment bien accueillie.
Madame était douce et aimable. Elle nous donnait beaucoup de conseils sur notre manière d'être. Mais elle n'enseignait pas. Elle était assise et nous regardait. Elle observait. Elle ne sortait pas avec nous. Nous allions chercher des feuilles et des fleurs avec Mario, puis nous les décrivions. Il nous demandait de les dessiner. Il nous enseignait les noms botaniques, et malgré notre jeune âge, nous apprenions facilement. Il nous enseignait aussi la géographie sur de grandes cartes. Tout était très concret avec lui. Mario nous racontait beaucoup d'histoires, et il voulait que nous lui racontions des histoires indiennes. Il était amical et enjoué. Il nous emmenait à la plage. Il jouait avec nous et nous invitait chez lui. Il était très accueillant, mais il tenait beaucoup à la discipline. Il était sévère tout en étant joyeux. Avec lui, ce qui était difficile devenait facile. Nous avons beaucoup appris grâce à lui. Madame et Mario nous encourageaient toujours.
Les étudiants qui étaient face à elle sont donc des étudiants, des adultes ?
Oui, exactement. Donc, c'est des adultes qui viennent de toutes les régions d'Inde, des hommes et des femmes, qui viennent se former. Certains sont déjà enseignants. Certains connaissaient déjà la méthode Montessori parce que ces livres avaient été traduits dans quelques langues parlées en Inde, pas dans toutes les langues parlées en Inde. Et en fait, on sent tout de suite qu'il y a quand même une grande harmonie entre eux. Elle commençait chaque cours par une prière. Et ce qui frappe, c'est le silence profond, parce qu'on était quand même... Enfin, cette paillote était en plein air. Et donc, malgré des conditions tellement différentes de ce à quoi elle est habituée, elle parvient tout de suite à créer une harmonie avec son public. On considérait Maria Montessori comme un gourou. Et donc, elle est même parfois étonnée de voir qu'à la fin des cours, certains étudiants viennent lui baiser les pieds.
Nous sommes toujours là. Le cours n'est pas encore terminé. Dire que c'est un succès n'est pas suffisant. Un triomphe n'est pas suffisant. Nous sommes presque considérés comme des demi-dieux. Beaucoup voudraient se jeter face contre terre, tendant une main pour toucher mes pieds. Ils viennent en groupe avec des photographes professionnels, demandant à être pris en photo avec moi, un par un, comme souvenir pour le reste de leur vie. Papa est également honoré, orné de guirlandes, admiré et aimé. Il se comporte comme un ange avec les Indiens. Il a vraiment le sentiment que leur âme guide leur vie.
Son message est très très bien accueilli, au point qu'elle dira au tout début, parce qu'elle va aussi répéter une expérience qu'elle avait faite en Espagne, elle va enregistrer des conférences à la radio. Et elle commencera ses conférences en disant « Je ne me suis jamais aussi bien sentie comprise » que par vous en Inde. Et ça, elle l'explique en disant que les Indiens, elle dit, sont naturellement spirituels.
Secondo Montessori, un individuo in grado di capire qual era il suo posto all'interno
d'après Montessori, un individu en capacité de comprendre quelle est sa place dans l'univers serait capable de résister aux tentations du conflit, c'est-à-dire de ne pas faire la guerre, de chercher la paix, de chercher à résoudre les conflits entre lui-même et l'environnement, entre lui-même et d'autres êtres humains. En cela, la période indienne est donc particulièrement importante. Parce que Montessori a eu le temps de penser et de développer des idées qu'il avait intéressé, qu'il avait déjà occupé au cours des années 1910, 1920 et 1930. Montessori échangeait également avec deux penseurs indiens très importants. Rabindranath Tagore, premier prix Nobel non européen en 1913 pour la poésie, et Mahatma Gandhi. Montessori et Tagore s'étaient connus en 1925 et le penseur indien avait manifesté une grande admiration pour la pédagogue italienne. Il avait décidé de présenter un petit essai sur sa propre approche pédagogique lors d'un congrès Montessori qui avait eu lieu en 1929 à Elsener au Danemark. Au fil des ans, Tagore avait inauguré des écoles dont l'approche pédagogique avait été conçue et réélaborée en s'inspirant du processus de développement de l'esprit de l'enfant, qui était justement au centre selon la pensée Montessori.
C'est une joie pour moi de recevoir de vos nouvelles. Comme vous le savez, j'admire beaucoup votre travail dans le domaine de l'éducation. Comme mes compatriotes, je pense que l'Inde a beaucoup de chance de bénéficier de vos conseils. Je suis convaincu que grâce à votre présence, l'éducation des jeunes qui devront soutenir tout le travail de reconstruction nationale trouvera une nouvelle inspiration durable.
Rabindranath Tagore, lettre du 6 janvier 1940.
Mahatma Gandhi, en revanche, était au courant de l'ouverture des écoles Montessori dès 1915. Mais il rencontre la pédagogue italienne lors de sa participation à un cours de formation pour enseignants qui se tient à Londres en 1931.
La corrispondenza di Gandhi, che è pubblicata interamente dei
La correspondance de Gandhi, publiée intégralement et disponible en ligne, témoigne de la longue collaboration et amitié qui existait entre Montessori et Gandhi. Gandhi, très souvent en effet, veut démontrer sa propre connaissance des problèmes pédagogiques et éducatifs de l'enfance indienne, et il le fait en faisant référence au fait que Montessori l'avait, d'une certaine manière, impliqué dans ses propres découvertes éducatives et pédagogiques, et donc il se sentait en mesure de parler. Il pouvait parler de l'éducation grâce à ce certificat attribué en quelque sorte par l'éducatrice italienne.
Pendant de nombreuses décennies, l'enfant m'a révélé quelque chose de caché dans les profondeurs de son âme. Que d'incompréhension. Combien de malentendus ai-je trouvé dans de nombreux pays? Les personnes pensent que je parle d'une méthode pédagogique, alors que moi, je parle d'une révélation reçue de l'âme des enfants. Ici, parmi vous, je sens que vous me comprenez complètement. L'enfant est le trésor suprême où nous pouvons puiser la force. Nous devons considérer l'enfant comme notre collaborateur. Il fait une partie du travail. Nous en faisons une autre. Son devoir est de nous donner le premier éclairage de l'amour véritable. La société changera uniquement si les adultes et les enfants collaborent. Cela n'est pas facile. C'est le devoir de l'éducation. L'éducation véritable implique non seulement que l'enfant soit éduqué, mais aussi que l'adulte se transforme.
J'aime bien les personnages, et du coup, Maria Montessori en fait partie, qui, justement, qui à un moment ont des ambitions, décident de changer le monde, et se disent que c'est pas grave, on commence aussi petit qu'on puisse le faire, et on sait pas où on arrivera.
Adrien Roche, formateur à l'Institut supérieur Maria Montessori.
Et on continue à creuser notre sillon encore et encore. Elle avait une façon de le faire avec remarquablement peu d'ego. Elle l'a jamais fait pour la gloire ou pour la célébrité, ni pour la richesse. Elle l'a fait parce qu'elle pensait que c'est ce qui devait être fait. Je crois que c'est une partie des choses qu'elle a aussi appréciées quand elle est arrivée en Inde. Elle parle de la Bhagavad Gita, des grands textes sacrés hindous, et notamment dans la Bhagavad Gita, il y a toute une admonestation de Krishna envers Arjuna. Et le dieu Krishna dit à Arjuna, Arjuna se demande « qu'est-ce que je dois faire ?» Et Krishna lui dit « ton dharma, fais ce que tu dois accomplir. Et n'espère ni récompense ni louange. » La seule récompense, la seule louange que tu dois attendre, c'est la satisfaction d'avoir accompli ton travail. Et je pense que c'est quelque chose qui a profondément résonné en elle, parce que c'est un peu la ligne qu'elle a suivie toute sa vie. Elle a subi critiques, oppositions tout le temps, des obstacles nombreux. À 70 ans, elle a pratiquement vu tout ce qu'elle avait bâti s'effondrer. Et elle a continué à avancer, parce qu'elle savait que c'est ça qu'elle devait faire. C'est là qu'était sa place, c'est là qu'était son rôle cosmique, comme elle a pu en parler parfois, pour reprendre cette notion pythagoricienne d'un cosmos où chaque chose a sa place et chaque chose a son rôle à jouer.
Adyar, 15 janvier 1939. Mais très cher, j'ai écrit à M. Pearson pour lui demander conseil. Je suis particulièrement inquiète pour vous. Beaucoup de gens ici m'ont dit que cette période relativement calme n'était pas un prélude à la paix. Mais il est encore possible de voyager et ils m'ont conseillé de faire venir ma famille. Vous imaginez bien que je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir.
Dans les lettres qu'elle écrit à ses petits-enfants, donc on perçoit aussi l'angoisse de Maria Montessori et de son fils Mario qui ont laissé les 4 enfants en Hollande.
C'est pourquoi je vous demande la force d'agir. C'est certainement une option que vous devriez envisager très sérieusement. Peut-être que tout finira par se terminer en paix, mais il est plus probable que ce ne soit pas le cas. Réfléchissez-y et demandez conseil. Où pourriez-vous aller? Nous pourrions essayer de voir si vous pourriez aller aux États-Unis. Nous avons également tous été invités au Chili, où ils nous ont offert, avec beaucoup de gentillesse et de générosité, du travail et un logement. Et puis, il y a l'Inde. Nous avons eu un succès retentissant et avons été invités à répéter le cours dans d'autres régions du pays.
Ce serait plus facile pour vous de venir ici si les choses se compliquent.
I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in
Quand Mario sait que la Hollande a été envahie, il veut rentrer en Hollande, mais il se rend compte que ce n'est pas possible de faire le chemin inverse. Donc voilà, il se retrouve bloqué en Inde, et donc Maria Montessori veut essayer de faire venir ses petits-enfants en Inde. Mais elle se rend compte que c'est vraiment une entreprise impossible.
This country is at war with Germany.
Donc le premier cours se termine, les étudiants rentrent chez eux. L'Italie, au même moment, nous sommes le 10 mai 1940, l'Italie déclare la guerre aux Alliés. Donc d'un jour à l'autre, Maria Montessori et son fils Mario sont vus comme des ennemis de la part du pouvoir anglais qui est sur place. Donc elle raconte qu'il y a des policiers anglais qui viennent encercler leur maison. Et c'est une expérience assez traumatisante parce qu'elle dit « Hier, on nous acclamait et maintenant nous ne pouvons plus sortir de chez nous ». Au début, le pouvoir anglais ne sait pas trop comment il doit agir avec Maria Montessori. Et vu son âge, il se rend compte que c'est quand même une personnalité. Et donc, vu sa condition de santé, donc, elle a la possibilité de rester chez elle, d'être assignée à résidence. Par contre, son fils Mario, c'est clair qu'il va tout de suite devoir être enfermé dans un camp avec les autres Italiens. Donc au début, c'est un camp qui n'est pas loin de Madras. Et donc Maria Montessori doit demander l'autorisation de voir son fils une fois par semaine. Au début, ça ne lui est pas accordé. Et puis on lui accorde l'autorisation d'aller voir son fils le dimanche. Ils l'ont rasé, donc elle voit son fils complètement chauve. Et on sait que pour Mario, ça a été une expérience assez traumatisante parce que c'était quand même quelqu'un d'assez libre, une personnalité assez extrovertie. Et donc il aura pas mal de problèmes avec la discipline. Après quelques jours, on regroupe les Italiens et on transfère les prisonniers, dont Mario, dans un camp à Ahmednagar, qui est beaucoup plus loin. Pour Maria, c'est la grande angoisse parce qu'elle se retrouve seule. Elle a un problème de langue. Même si certains de ses étudiants étaient restés à ses côtés, l'angoisse de ne pas avoir de nouvelles de ses petits-enfants et d'être éloignée de son fils est assez profonde. Donc pour elle, c'est aussi un peu une trahison de la part des Anglais, parce que tout le monde sait qu'elle a dû fuir l'Italie à cause de Mussolini, qu'elle était contrôlée par la police secrète de Mussolini, donc elle était en quelque sorte une victime aussi du fascisme.
Elle était contrainte à l'exil.
Elle était contrainte à partir de 1933, elle n'était plus rentrée en Italie. Donc elle dit, mais c'est vraiment une trahison, elle le vit comme une trahison.
J'ai rêvé de mes parents. Ils parlaient, mais leur voix ne m'atteignait pas. « Parle plus fort ! Parle plus fort !» ai-je dit. Je me suis sentie mal, car je ne pouvais pas les entendre. Puis je me suis réveillée. Pourquoi ? Parce qu'ils sont trop loin. J'ai le sentiment qu'une partie de moi est morte. Je me sens mutilée et malheureuse. Je suis si seule. Personne ne peut imaginer à quel point je suis seule. Car je ne comprends pas la langue et je ne peux pas la parler.
Avec Marianne Matta Bonucci, Martine Gilsoul, Bérangère Colli, Lorenzo Cantator, Cristina De Stefano, Adrien Roche et Erika Moretti. Un grand merci à l'AMI, l'AMF, à Giuseppe Tognon et à Martine Gilsoul. Extrait des lettres tirées du livre Maria Montessori, Une vie au service de l'enfant de Martine Gilsoul, en collaboration avec Charlotte Poussin. Extrait des lettres de Maria Montessori à ses petits-enfants, Lettres d'Inde, Montessori Pearson Publishing Company, Amsterdam. Lecture Aurélia Petit, Audrey Lauten, Mehdi Hariri et Laurent Benahim. Traduction Chahinez Rasgala et Valerio Mariotta. Lecture des traductions Lise Combe et Éric Charon. Documentaliste Annie Signoret, stagiaire Margarita Carlone Minoya, prise de son Romain Luquiens, prise de son studio Manu Couturier et Nadège Antonini, mixage Éric Boisset, chargé de programme Anne-Vanessa Prévost, coordination Christine Bernard, responsable éditorial Emmanuel Laurentin, une grande traversée de Johanna Bedeau, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. À suivre, cinquième épisode, un nouveau modèle pour l'enfance.